Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Finally, Dusty, if heaven exists, what would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates?
I love what De Niro said. De Niro said, well, if there is a God, he's got a lot of explaining to do.
Right.
But the first one that came to my mind is what God would say when he said, that's funny, you don't look Jewish.
Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée au mythique Actors Studio via une évocation du livre Actors Studio édité par Carlotta Film, préfacé par Michel Simon et écrit par Michel Ciotta, Christophe Damour, Jacques Demange et Christian Viviani. Un retour sur le documentaire d'Annie Trégo, édité également par Carlotta Film et intitulé Hello Actors Studio. Une chronique de The Wide One, documentaire de Tessa Louise Salomé sorti chez ESC, sur le passionnant Jack Garfin, survivant de l'Holocauste, cofondateur de l'Actors Studio, et surtout un indomptable qui a réalisé deux films incroyables, The Strange One et Something Wild. Enfin, nous aborderons Le Grand Couteau de Robert Aldrich, disponible chez Rimini Éditions, un film tiré d'une pièce de Clifford Odets, montée initialement en 1949 par son ami disciple de la méthode, John Garfin. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mautier et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer de la méthode, je suis accompagné Deux acteurs fabuleux, évidemment, hein, vous les connaissez, ce sont vos chroniqueurs habituels et habitués, comme l'on dit quand on se zote. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, qui ressemble de plus en plus à John David Washington dans Black Klansman. Hein, c'est impressionnant la coiffure là. C'est aussi un archéologue, évidemment. Alors, archéologue animal, paraît-il, hein, qui est en quête de cultures souterraines et oubliées, et qui est également le créateur du podcast Écho du Temps, qui est disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans le studio, un adepte de la méthode, en tout cas qui a piqué sa coiffure à Marlon Brando dans Apocalypse Now, hein, notre colonel Kurtz à nous. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland, alias le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédac-chef. Bonjour Thomas.
Salut Gégé, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Nous débutons cette émission par un tir groupé de l'éditeur Carlotta Film. Alors à la fois un livre et un Blu-ray ou DVD qui nous propose un documentaire en version restaurée, un documentaire sur l'Actors Studio qui s'appelle Hello Actors Studio, qui est signé Annie Trégo. Alors l'Actors Studio, c'est un mythique studio new-yorkais a été fondé, en tout cas, en réaction un peu au jeu qu'on trouvait trop emphatique des acteurs shakespeariens, des acteurs britanniques, et qui est considéré comme la base du jeu moderne, en tout cas, même si il y a toujours eu dans l'histoire du cinéma des pro-acteurs studio et des anti-acteurs studio. Entre autres, Hitchcock n'aimait pas l'acteur studio, les acteurs issus de l'acteur studio qu'il trouvait trop maniérés. Alors, j'en ai parlé en début d'émission sur le ton de la boutade, mais effectivement, parmi les acteurs les plus célèbres de l'acteur studio, il y a Marlon Brando, il y a eu aussi James Dean, il y a eu Marilyn Monroe. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est fondé dans les années 20, l'acteur studio, par des Russes qui sont exilés à Hollywood et qui introduisent donc les théories qui sont considérées comme révolutionnaires à l'époque d'un certain Konstantin Stanislavski, dont l'enseignement donc, suscite la création du Group Theater qui va durer de 1931 à 1941. À New York, donc, et c'est là que vont se former de jeunes acteurs, une première génération donc, qui va être adepte de la méthode, dont un certain John Garfield, sur lequel nous reviendrons dans la dernière partie de cette émission. Et l'acteur studio connaîtra différents directeurs, dont le fameux cinéaste Elia Kazan. Elia Kazan qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, balancera aux commissions McCarthy son ex-ami John Garfield, en tant que communiste patenté. Mais surtout, le directeur le plus célèbre de l'acteur studio, le nom le plus souvent cité, c'est Lee Strasberg. Mais en fait, ce qu'on découvre en voyant le documentaire d'Annie Trego, qui est un documentaire en fait, qui est tourné en 1987 à l'occasion du 40e anniversaire de ce qu'on peut appeler un laboratoire pour acteurs. Et en fait, dans ces trois parties, la réalisatrice nous propose de découvrir aussi bien le quotidien de l'acteur studio. Moi, j'ai découvert par exemple que pour entrer à l'acteur studio, il y a une audition une fois par an en septembre. J'ai découvert aussi en voyant ces trois heures de documentaire que Burt Young vient seulement, alors qu'il a déjà toute la série des Rocky derrière lui et tout, en 87, rentre seulement à l'acteur studio. Alors c'est déjà plus un gamin, l'oncle Pauly. Donc on découvre qu'en fait c'est un peu un Graal. Au moment du documentaire, l'acteur studio est dirigé d'ailleurs par Paul Newman, qui est un ancien pensionnaire de l'acteur studio. Et la directrice artistique n'est autre que Ellen Burstyn, la maman de Reagan dans L'Exorciste, qu'aurait mieux fait de parvenir d'ailleurs dans le dernier Exorciste, mais ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, elle est assez extraordinaire, on la voit faire son travail de directrice artistique. Et en fait, c'est une école de travail, c'est une école où on apprend le métier d'acteur, et on voit défiler dans le jury, des gens comme Joseph Mankiewicz qui sont là, parce qu'ils sont membres de l'acteur studio, qui sont là en tant que spectateurs. Je peux vous dire que les avis de Joseph Mankiewicz sont attendus avec une certaine crainte par les jeunes comédiens qui défilent sur scène. Alors, il y a Sidney Pollack, Arthur Penn, Elie Wallach, Shelley Winters, qu'on voit aussi beaucoup, Shelley Winters. Shelley Winters, d'ailleurs, qui n'est pas à la base, qui est passé par l'acteur studio, qui en fait partie, puisque on en est membre à vie une fois qu'on y est entré. Et c'est une école gratuite, ce qu'on découvre aussi dans le documentaire. C'est-à-dire que, par contre, après, on doit donner de son temps. Mais c'est une école gratuite. Et c'est assez intéressant. C'est pour ça qu'Hélène Burstyn, directrice artistique, donne de son temps, que Paul Newman, le directeur, donne de son temps, enfin le président de l'acteur studio, au moment où le film est fait. Et on voit tout le quotidien, tout le quotidien de cet acteur studio, donc cofondé en 47, qu'il a en 87 à 40 ans. Alors on est loin des débuts de l'acteur studio, où sévissait d'ailleurs un certain Jack Garfield, dont on va parler dans la suite de l'émission. Là, on est déjà en 87, c'est quelque chose d'installé, l'acteur studio, et on voit quand même que ça a un certain prestige d'aller y travailler. Mais la force du documentaire, c'est vraiment de nous montrer, en fait, moi c'est ça que j'adore, comment on travaille. Il y a un moment que j'adore quand Ellen Burstyn explique comment jouer l'ivresse. Et en fait, quand on est ivre, on est totalement focalisé sur soi-même, voire on se focalise sur des détails, mais le monde autour de nous est presque extérieur. Et elle explique comment jouer l'ivresse en se servant de sa main, en regardant sa main. en se focalisant sur sa main. Et c'est un moment assez extraordinaire de voir une actrice au travail et inventer au fur et à mesure son jeu. C'est assez impressionnant. Alors, le documentaire il n'est pas accompagné, il faut acheter les deux, mais franchement c'est un investissement. Y a un livre qui sort donc en même temps, un livre, un pavé, un truc monstrueux, 600 pages, donc qui s'appelle Actor Studio, histoire et esthétique d'une méthode de Broadway à Hollywood, donc qui est signé Michel Ciotta, Christophe Damon, Jacques Demange et Christian Viviani. Donc c'est également chez Carlotta Film, qui édite maintenant depuis quelques années de très bons livres de cinéma. Et tout d'abord, le livre débute par une préface du regretté Michel Simon, immense critique de cinéma, auteur entre autres d'ouvrages indispensables sur Kubrick et Bourman, qui nous a quittés en 2023. Puis, le livre interroge l'association souvent faite de manière erronée entre l'Actor Studio et la méthode Stanislavski. Certains, comme Shelley Winters, Brando, Rod Steiger, était passé également par d'autres écoles d'art dramatique, ce que je vous disais déjà à l'instant sur Shelley Winters. Donc c'est intéressant de découvrir que, en fait, quand ils viennent à l'Actor Studio, ils ne sont pas forcément le produit de l'Actor Studio, mais ils viennent pour approfondir leur connaissance du métier et découvrir d'autres méthodes. Et le livre décortique ensuite la genèse et le passage de la scène à l'écran pour l'Actor Studio et plus globalement l'influence du théâtre US sur Hollywood, sur le cinéma hollywoodien. Ou comment un projet utopique a contribué à faire de l'avant-garde un dogme salvateur, devenir une véritable référence pour tout acteur qui se respecte, peu importe d'ailleurs qu'il soit, oui ou non, un turiféraire de l'Actor Studio. Ce livre, ne se contentant pas d'une étude hagiographique, il tente aussi de percer les secrets de la méthode et ses multiples ramifications et influences. Un dictionnaire analytique de près de 300 pages, complété d'une bibliographie exhaustive, vient achever de convaincre le lecteur qu'il tient entre ses mains, avec Actor Studio, histoire et esthétique d'une méthode de Broadway à Hollywood, un ouvrage primordial sur le métier d'acteur et plus largement le théâtre et le 7e art. Un ouvrage somme indispensable, paru chez Carlotta. Et donc, on vous rappelle, complété d'un documentaire de 3 heures qui s'appelle Hello Actor Studio d'Annie Tresgo, disponible pour donc la première fois dans une version 4K. Vous écoutez Culture Prohibée.
There's this man, he's like in this pile of coal that's Hollywood. There's this ruby that's just there. And no one really knows where he's at.
When I first came here, I had nobody. And I followed my intuition.
Jack became a great theorist of acting. He had a unique perspective at the studio.
Restons dans le domaine du documentaire et toujours en lien avec l'Actor Studio. Je vais vous parler d'un film de Tessa Louise Salomé qui s'appelle The Wide One et qui est sorti chez ESC. Ce film dans lequel on peut retrouver un très beau casting comme, par exemple, Irène Jacob, Peter Bogdanovich, même Willem Dafoe qui prête sa voix au personnage principal de ce film, qui est Jacques Garfin. Jacques Garfin qui est donc interviewé tout au long de ce film et qui, par intermittence, voit son récit relaté donc par Willem Dafoe. Qui est Jacques Garfin? Oui, les amis, vous me dites, qui est Jacques Garfin? Très franchement, avant de voir The Wide One, je ne connaissais pas Jacques Garfin, je l'avoue, humblement. Alors à la base, c'est un petit garçon qui grandit dans les Carpates. Il est déporté à 13 ans. C'est un rescapé de la Shoah. Et il devient metteur en scène de talent et l'un des poumons de l'Actor Studio. Et il a vécu vraiment plusieurs vies, le sauvage, le dingue, The Wide One. Voilà, on va en découvrir plus parce que c'est vraiment un parcours très singulier que celui de Jack Garfin. Alors, il revient, dès le début du documentaire consacré, il revient sur le camp de concentration d'Auschwitz, hein, où il explique qu'il devient acteur à Auschwitz, parce que, comment dire, il comprend qu'il doit feindre nombre de situations afin de ne pas être sacrifié dans le camp, parce que c'est les plus faibles qu'on tue. Donc lui, il va feindre d'être fort, il va feindre pour pouvoir participer à tous les travaux, pour pouvoir, et il va éhontément mentir à plein d'occasions. Il le raconte très bien dans le documentaire. Il raconte aussi un geste incroyable, terrible, qu'il a envers sa mère, qui le hantera à jamais, qui est quasiment sacrificiel pour sa mère, en fait, quoi. Voilà, je vous laisse le découvrir, il faut voir le documentaire, c'est un moment déchirant du documentaire, c'est une réaction de petit garçon devant une situation qu'il ne comprend pas. Qui peut comprendre l'Holocauste, de toute façon, et encore moins quand on est un petit garçon et qu'on est juif durant l'Holocauste. Quand il rentre après la guerre, il décide de partir à Hollywood. Il n'a rien à perdre. Il trouve sa place à Los Angeles et il devient une vraie star en herbe. Il se marie avec une autre star en herbe, hein, une autre femme star, la baby doll d'Elia Kazan, Carole Baker. Carole Baker qui finira dans plein de giallo, de Umberto Lenzi, tout ça, mais qui a été une superstar, hein, aux États-Unis. Hein, et il va réaliser deux films qui sont incroyables. Hors norme, complètement atypique, enfin, on a rarement vu ça. Un film qui va d'abord être, qui s'appelle le premier film The Strange One, qui est sorti au printemps 57, et alors, on y reviendra plus en détail après, hein, mais qui est vraiment un film singulier, dans une académie militaire, l'emprise d'un petit nazillon, certainement homosexuel, enfin voilà, sur une troupe, ce petit nazillon qui va se révéler en fait être beaucoup plus complexe et fin et singulier que ce qu'il n'y paraît. Enfin, un film très complexe dans lequel déjà, on le voit dans le documentaire, Jack Garfin doit se battre pour imposer la fin aux producteurs. Une fin qui choque les producteurs. Et il se bat, il tient bon, il veut la même fin que dans la pièce de théâtre qu'il avait mise en scène. Et en 1961, il fait Something Right avec Carole Baker, qui est juste un film assez incroyable, puisque c'est quoi le sujet de ce film? C'est l'histoire d'une femme qui survit à un viol et comment elle vit après le viol. Et là où le film est quand même assez tordu, c'est qu'elle va rencontrer, bien sûr, quelqu'un qui à mi-chemin entre un prédateur, un pervers narcissique, et en même temps, quelqu'un qui l'aime sincèrement. Et ça va donner un film vraiment singulier, là aussi très dérangeant, et qui scelle un peu à jamais, hein, le destin de Jack Garfin, qui, dans le documentaire, hein, dit qu'il veut toujours faire des films. Hein. dans le documentaire, c'est un papy de chez papy, hein, mais il a toujours des films en tête, évidemment. Donc, vous l'aurez deviné, moi, ce documentaire nous permet de découvrir un personnage incroyable, en fait, hein, qui est donc Jack Garfin. The Wild One, donc, c'est paru chez ESC. Et moi, grâce à ce documentaire, eh bien, j'ai demandé à ma petite équipe, à ma fine équipe, de regarder les films de Jack Garfin, que j'ai regardé aussi. Et on va tout de suite commencer par ce film qui s'appelle The Strange One. The Strange One, qui a un titre français, Demain, ce seront les hommes, qui est disponible sur MyCanal, hein, d'ailleurs, hein, qu'on peut voir, qui passait sur les chaînes de cinéma classique sur Canal, Studio Canal en ce moment, au moment où on enregistre l'émission. Et donc, mon cher Damien, cette histoire d'académie militaire avec un certain sergent cadet Joko de Paris, élève officier de quatrième année, qui décide de se venger de George Avery, un de ses condisciples, et par voie de conséquence du père de celui-ci, un des officiers supérieurs dirigeant l'école. Ça va donner quand même le centre du film, Damien, c'est quand même un film sur la perversion et la domination, quoi. Vous écoutez Culture Prohibée spécial Actors Studio.
C'est un film avec une hiérarchie qui fait énormément dans la structure. C'est normal, on est dans une école militaire, donc on a des grades. Et le fait qu'on ait quelqu'un d'aussi insidieux, d'aussi violent, manipulateur et aussi dangereux que ce personnage, c'est extrêmement inquiétant. Parce que les cadets qu'il a sous ses ordres, il va les utiliser pour son bénéfice. Et ce qui est assez affreux et qu'on se rend compte assez vite, c'est que la plupart du temps où il peut être accusé et mis en danger, en fait, on ne peut pas l'accuser, sinon on se met nous-mêmes en danger. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à créer autour de lui un écosystème vraiment assez sombre, vraiment affreux. Et c'est quelque chose qui marche d'autant plus parce que lorsque le film débute, c'est un des personnages qui parle le moins. Il est avec son camarade, ils vont dans la chambre des cadets, son camarade est violent, il s'en prend à un des cadets, et lui est juste dans un coin sans rien dire, jusqu'à intervenir et en fait plaider en disant non, ne l'attaque pas. Et on se dit qu'en fait, on a affaire au personnage le plus raisonné, mais pas du tout. C'est le pire personnage du film, et il a introduit extrêmement vite. Et ce qui m'a choqué pour les films qui sont faits par Jacques Garfin, c'est que c'est des films de 1957 et de 1961, donc on est autour des années 60, et comme on l'a dit, l'acteur studio, c'est une technique qui fait que les films ont l'air extrêmement modernes. C'est-à-dire que pour moi, si on lui met un peu de couleur, on a l'impression que c'est un film qui est fait au début des années 2000. Et c'est assez incroyable de voir des films qui datent d'aussi longtemps être aussi moderne. Alors, comme tu as dit, le documentaire, il s'appelle The Wild One. Ce qui est intéressant, vu que c'est la fusion des titres de ces deux films, The Strange One et Something Wild. Et il y a un truc que j'aime beaucoup dans le titre français qui est Demain, ce seront des hommes. C'est que la façon dont c'est dit Demain, ce seront des hommes, c'est dit d'une certaine fatalité. Surtout quand on voit le personnage de Joko de Paris et ce que ses camarades font de lui. En fait, les deux camps sont assez inquiétants. Alors, le camp des cadets qui se venge, on est avec eux parce que Joko est assez affreux, mais même la vengeance en soi est assez terrible. Et il y a plein d'éléments qui font que le film est génial, et notamment l'acteur qui joue Joko, Ben Gazzara, qui est incroyable.
Son premier rôle.
C'est son premier film. Ouais. Et alors, on a du mal à y croire parce que vraiment, il tient son personnage. Il est il est fou, mais le film regorge avec une profonde intensité entre les personnages, que ce soit dans l'opposition des valeurs ou bien dans, dans la manipulation que fait ce personnage. Il y a toute une mise en scène qui donne beaucoup... qui se centre beaucoup sur les acteurs, ce qui font que les acteurs donnent énormément de eux-mêmes, et ça rend le film vraiment incroyable. Le dernier détail, c'est que c'est l'adaptation d'un roman et d'une pièce de théâtre de Calder Willingham, qui, dans sa version originale, s'appelle End as a Man, et ce mec, c'est aussi le scénariste des films des Sentiers de la Gloire. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'on reste dans le cadre de l'aspect militaire et de tout ce qui va être valeur et punition, également le lauréat. Donc, c'est un mec qui fait des scénarios en or, et ce que Jack Garfin fait avec ce scénario, c'est aussi de l'or.
Ouais, c'est un film très impressionnant. Moi, je... Le film, c'est qu'une succession de faux-semblants. Alors, en plus, le noir et blanc est magnifique. La mise en scène est impressionnante pour un premier... Enfin, de toute façon, ça n'existe pas. Quand on a du talent, un premier film, ça n'existe pas, en vérité. Là, c'est juste assez extraordinaire. Enfin, parce que le film est d'une beauté parfaite, d'une construction parfaite. Tu l'as dit, rien que la première apparition de Joko de Paris, qui paraît être le type le plus raisonnable et qui, en fait, est un type avec des tendances fascistes, mais qui, en même temps, on sent que c'est un homosexuel refoulé. On sent qu'il est aussi... il a un petit côté, en même temps, c'est presque... Il a un petit côté Greta Garbo, quoi. C'est-à-dire, il est très raffiné, élégant, porte-cigarette, toujours son petit porte-cigarette au coin des lèvres. Il est intellectuellement... Il n'est pas idiot, en plus. Et il se sert de sa supériorité intellectuelle pour dominer les autres. Mais là où le film est vraiment super intéressant... Bon, ce type, c'est un sale type. Il est soutenu par la hiérarchie militaire, en vérité. Oui, tout le monde sait ce qui se passe. Voilà. Mais c'est qu'en fait, les mecs qui torturent, c'est aussi des crapules. C'est pas des gars sympathiques. Ils sont lâches, ils sont veules, ils sont faibles. Eux aussi prennent plaisir à humilier d'autres personnes et tout ça. Donc ce qui fait que le film devient très gênant. C'est très compliqué de supporter en fait la vengeance contre Joko de Paris de la part de types. tu te dis, s'ils étaient top potes avec ce Joko de Paris, ce seraient les premiers tortionnaires à l'accompagner. Donc c'est très, très... c'est un film très troublant. Et en particulier aussi sur le personnage féminin dans le film, qui est un personnage à la fois très sexualisé et désexualisé, par biais d'une scène qui se passe dans un mess d'officier, enfin dans un bar qui est un mess d'officier, quoi, voilà. Je vous invite à voir. Et puis le final, là, dans le train, là, c'est impressionnant. Puis toute la grammaire cinématographique qui est utilisée, la manière d'utiliser le noir et blanc, la vapeur, tout ça, enfin, bah, c'est hyper balèze. Moi, je suis resté... sidéré par le film, et puis on le dit pas assez, parce que c'est un acteur qu'on oublie souvent, dans l'un de ceux qui s'opposent à Joko de Paris, il y a un acteur qui crève l'écran, qui est aussi un débutant, qui est George Peppard. Alors George Peppard, on se souvient tous de l'agence Tourisme, mais en fait il a eu aussi une grande carrière d'acteur, et là il est excellent parce qu'il brille de par sa sobriété, justement. Et c'est là qu'on voit que l'acteur studio... C'est pas que des gens très maniérés, puisqu'on voit que Ben Gazzara, comme George Peppard, en fait, ils intériorisent vachement leurs personnages. Ils sont pas du tout dans le cabotinage. Et c'est ça qui est encore plus troublant. Donc effectivement, c'est un film à voir absolument. Donc disponible sur MyCanal. Et alors, il est sorti aux USA en 2009 par Columbia sur un DVD où il y a des sous-titres français. Donc avis aux amateurs, ceux qui peuvent le dénicher sur Internet. Vous écoutez Culture Prohibée. Et puis après, on va passer à l'autre film, un film de 61, mon cher Damien, qui s'appelle, alors dans la version française, il y a un titre français aussi, hein, s'appelle Au bout de la nuit, et qui est un film de Jack Garfin, 61, Something Wild, qui est lui sorti chez Criterion d'ailleurs aux États-Unis, donc on peut aussi se le procurer, et qui, si il n'atteint pas la perfection du précédent film de Garfin, reste un film totalement atypique également.
Alors, tout comme toi, Jérôme, je le préfère un peu moins que The Strange One, mais Something Wild a quelque chose, a une violence plus manifeste, je trouve, que dans son précédent film. Alors, il propose un peu une sorte d'aventure poétique sombre dans un cauchemar qui ne fait que s'obscurcir. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement dur, et en fait il est dur dès les premières minutes, dès l'agression, parce qu'il a une force du détail qui est intéressante, c'est-à-dire que pendant la scène d'agression il va se concentrer sur des petits bouts à droite, à gauche. C'est un film qui va en profiter pour prendre son temps, et à nouveau il a une certaine modernité dans la façon dont il aborde les choses, c'est-à-dire qu'il y a l'agression et il y a la fille qui fait tout pour cacher le fait qu'elle a été agressée. Elle va même jusqu'à découper ses vêtements pour pouvoir les jeter et en fait s'en débarrasser. Elle fait tout pour garder l'horreur qu'elle a subie à l'intérieur de elle, alors qu'elle est entourée de ses parents, elle vit encore chez ses parents, et au fur et à mesure elle va prendre des décisions qui sont liées à son traumatisme et qui vont vraiment pas l'aider. Par contre, il y a quelque chose qu'on avait dans The Strange One et qu'on retrouve bien dans Something Wild, c'est qu'il y a certains moments où il s'essaie à des montages un peu particuliers, et on retrouve dans ce film-là, vu qu'il y a une scène légèrement onirique de rêve. Alors c'est pas quelque chose qui refait souvent, mais c'est omniprésent dans ces deux films, et je trouve ça intéressant. Ça se voit en fait qu'il voulait commencer à tester certaines choses qu'il a pas eu le temps au final de mettre en place, vu que il a fait que deux films. Mais c'est aussi un film qui profite d'une situation de tension quasiment omniprésente, parce que on sait qu'elle a ce secret, on sait qu'au bout d'un moment ça va sortir, et au final ce secret ne sort pas tellement, et elle se retrouve dans une situation tout aussi horrible avec le deuxième homme. Et c'est une fin qui est extrêmement particulière. C'est un peu compliqué à décrire le choix qu'il fait, parce que ça me mitige un peu.
C'est une fin qui n'est pas dans l'air du temps. Peut être sûr qu'aucun producteur ne dirait aujourd'hui, à part si c'est un petit film indépendant, un film avec une superstar, ce Carole Baker, c'est une superstar à l'époque, aucun producteur n'accepterait aujourd'hui la fin de ce film qui est... amoral, immoral, tout ce que tu veux, quoi. Voilà, c'est impressionnant. Ouais.
Mais totalement. Et en fait, la scène de fin met en lumière quelque chose qu'on a durant tout le film et qu'on a même avant, lorsqu'elle rencontre le deuxième homme et qu'elle se retrouve chez lui. C'est le jeu des acteurs qui est extrêmement puissant, parce que tu as beaucoup de face-à-face, en fait, avec des acteurs qui se font face. C'est ce qu'on a dans le premier film, où il y a plusieurs segments où juste deux acteurs se font face, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce film avec deux acteurs qui se font face et qui délivrent un jeu qui est... d'une puissance assez remarquable, quasi mystique, vu qu'il prend beaucoup de son temps dans sa mise en scène. C'est assez fou, et la dernière scène en fait incarne tout ça, ce face-à-face où il y a un personnage qui essaye de comprendre les choix de l'autre, et que l'autre au final est un mur de briques. Il y a un désespoir dans cette scène assez profond.
C'est un film qui est... Je pense que Jack Garfin est traumatisé à vie, parce qu'il a vécu durant l'enfance, et qu'il a... De toute façon, c'est clair, hein, je veux dire, en dehors de toi-même, pas de salut, hein, parce que là, c'est vraiment une reconstruction intérieure. C'est-à-dire que dès le début, quand elle se fait agresser, la croix tombe au sol, parce qu'il n'y a personne là-haut pour t'aider, quoi. Voilà, tu vas te faire violer, tu peux toujours essayer d'attraper ton crucifix, c'est foutu, c'est pas Dracula, tu vas pas le repousser, hein. c'est un monstre réel, c'est un être humain, malheureusement. Et y a tous ces moments aussi, parce qu'en fin de compte, il est flippant, le deuxième type qu'elle va rencontrer, mais c'est aussi quelqu'un de fragile. C'est la force, hein, d'ailleurs, ces personnages sont pas manichéens. Ces films sont très étonnants, c'est la modernité de l'écriture de ces personnages, en fait, qui est très, très étonnant. Et puis, comme tu l'as dit, il y a énormément... En fait, c'est un film où il y a très peu de dialogue. L'autre avait beaucoup de dialogue, celui-ci a très peu de dialogue. Donc, il y a énormément de scènes où Carole Baker erre comme ça. Bon, il adore filmer aussi Carole Baker, qu'il aime d'amour, c'est sa femme. Hein. Il la sublime dans des scènes qui sont, comme tu dis, c'est pas des scènes oniriques réellement, mais c'est presque des scènes oniriques. Enfin, on ne sait pas si on est dans le cauchemar, dans la réalité. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que comment c'est comment après le viol dont elle ne parle pas parce que tout est intériorisé hein, comment le réalisateur nous fait voir quelque chose qui est quelque chose dont on parle en fait très peu, c'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui disent bon ben voilà MeToo, pourquoi des femmes attendent tant de temps avant de parler de ça et tout, mais là on voit bien pourquoi elle attend en fait, et on voit tout son calvaire qui est un truc auquel on va pas forcément penser, le contact humain, le fait de dire bonjour, le fait de te faire frotter par quelqu'un dans le métro, frotter en tout bien tout honneur, je veux dire quelqu'un qui va juste frotter son épaule contre la tienne parce que
qui va passer à côté de toi et qui va te toucher juste parce qu'il essaye de sortir du métro.
Parce qu'il essaye de sortir du métro, voilà. Et tout ça, c'est montré dans le film. Et tout ça, ça la met dans une panique incroyable. Elle ne peut se... En tout cas, dans le film, le message, c'est qu'elle ne peut se reconstruire qu'à travers une rencontre avec une autre âme brisée, en fait, puisque c'est un suicidaire qu'elle rencontre, en fait. Donc, c'est, au départ...
Tu as raison, quand il la rencontre, il se l'approprie un peu après, mais il est totalement brisé et dit que si ça ne marche pas avec elle, ça ne marchera pas avec les autres et qu'il mettra fin à ses jours. Mais le premier segment est intéressant parce qu'au final, elle essaye de fuir un peu sa réalité. Déjà, elle cache ce qui lui est arrivé et ensuite, elle fuit le milieu familial. Elle s'éloigne, elle essaye de fuir en fait ce qui lui est arrivé. Bon, elle est rattrapée dans le deuxième segment parce qu'elle n'a pas trop de choix et qu'elle est un peu confrontée par cet homme qui est un peu ce... Je rapprocherais plus d'un pervers narcissique. Bah, en soi, il est fragile, mais il essaye quand même d'imposer ce truc que bah, je suis gentil, je ne sais pas pourquoi tu me considères comme un monstre, alors que c'est un peu un monstre quand même.
Ouais, c'est ça qui est ambigu, c'est un pervers narcissique, mais il y a un vrai amour entre eux. Et en même temps, évidemment, elle est victime d'un viol, donc... moi, je suis pas psychologue, hein, c'est pas mon métier, mais on sait, les travaux le démontrent, que effectivement, quand on a vécu une agression sexuelle, on reproduit souvent le schéma à son insu, d'où la nécessité de faire un gros travail sur soi quand on vit ce type de drame. Voilà. En tout cas, deux films de Jack Garfin qu'on vous conseille vivement. Vous écoutez Culture Prohibée spécial Actors Studio. Et Jack Garfin, qui était un des tout premiers, justement, ce qu'on voit dans le documentaire The White One, qui est disponible chez ESC, l'un des tout premiers membre de l'Actor Studio et est l'un des premiers disciples de cette fameuse méthode. Mais alors là, vraiment, un des tout premiers, ça a été John Garfield. John Garfield, acteur sensationnel, hein, qui donc va... il est mort assez jeune, hein. Il est né en 1913, il est mort en 52. C'est une victime du macartisme, hein, qui s'est, et donc un peu déliacasant, comme je le disais tout à l'heure, et qui s'est enfoncé dans une dépression totale et un alcoolisme notoire qui l'ont complètement achevé, l'ont fait, ont fait qu'il est mort très jeune. C'est un acteur incroyable, hein, qui est révélé par un concours d'éloquence qui lui permet de devenir l'élève de Maria Ouspenskaya, donc actrice russe, adepte de la méthode Stanislavski, qui fait partie de ce groupe theater, dont on a parlé tout à l'heure, quoi, hein, qui arrive aux États-Unis. Alors, il passe quelques temps au sein de ce groupe, il ne tarde pas à devenir un acteur extraordinaire, et sa carrière va être brisée net par... donc le fait qu'il soit dénoncé auprès des sbires de McCarthy. Alors, il est victime de cette chasse aux sorcières avec, entre autres, dans ses cartons, monté avec son ami Clifford Odets, qui l'avait écrit, une pièce qui va terminer par donner un film quelques années plus tard, qui va s'appeler Le Grand Couteau, un film de 55, un film d'Aldrich. Alors, évidemment, sans Garfield, film qui sort là chez Rimini Édition. Et mon cher Thomas, un film vraiment singulier dans la carrière d'Aldrich.
Singulier, oui et non, parce que c'est quand même un film... On connaît l'amour de Robert Aldrich pour le théâtre. Donc là, il s'agit d'une adaptation. Hein. On a vu certains autres de ses films qui ont un petit côté très théâtral, hein, comme certaines parties de Attack ou encore l'un de ses derniers films qui est-il arrivé à Baby Jane. Et là, donc, il adapte ce Grand Couteau avec Jack Palance dans le rôle principal. Jack Palance qui joue un acteur qui a des états d'âme parce que il a un secret que dont les producteurs se servent pour plus ou moins le faire chanter ou le garder sous leur coupe. Alors ce secret, c'est en fait il était avec sa maîtresse en voiture et il a tué quelqu'un par accident alors qu'il était en voiture. Il y a une rumeur qui dit que ça s'inspire d'un incident réel qui aurait impliqué John Huston quand il était plus jeune. Et que Louis B. Mayer aurait essayé d'étouffer de façon à ce que la presse people n'en parle pas. Bref. Donc, et ce personnage incarné par Jack Palance a bien des soucis. Il s'entend plus trop bien avec son épouse, qui est jouée par Ida Lupino, qui elle-même est sur le point de partir avec un autre homme. Jack Palance, lui aussi, continue de voir cette femme, hein, qui est témoin, en fait, de l'accident. Et... qui est joué par Shelley Winters. Shelley Winters qui d'ailleurs dédie son rôle à John Garfield. Hein. Le film a été fait 3 ans après la mort de John Garfield. Et effectivement, c'est un film sur Hollywood qui est quand même assez violent. Hein. Ce sont des joutes verbales essentiellement. Ça se passe essentiellement en intérieur. Et avec un Rod Steiger qui joue un producteur particulièrement implacable, dur, qui ne transige pas, monolithique, hein, on dirait un rock, hein, avec des lunettes noires, tout habillé en noir. Et c'est un film particulièrement dur sur Hollywood et qui s'avère quand même assez nihiliste. Hein, c'est quand même un film assez nihiliste. Hein, bon, Robert Aldrich, en général, la comédie, c'est pas trop son truc, hein, même s'il en a fait quand même, mais bon, c'est pas trop son truc. Et c'est un film effectivement très dur sur Hollywood, sur la manipulation, sur la façon qu'ont les producteurs de vouloir imposer leur vue ou d'imposer les acteurs, leur carrière, comment ils orientent leur carrière.
C'est un film effectivement qui est singulier dans le sens où c'est sans doute la charge la plus violente qui a été portée contre Hollywood à l'époque, hein, où il a été tourné, même si effectivement ce sont des thématiques que Aldrich va reprendre régulièrement dans sa filmographie, hein, où il va souvent prendre pour cible ce qu'on appelle l'entertainment, hein, le monde du spectacle, hein, avec le démon des femmes, qu'est-il arrivé à Baby Jane, faut-il tuer Sister George, qui se passe dans le cadre de la télé, mais bon, voilà, on est toujours dans des dénonciations de ce type. Et le démon des femmes, c'est même une sorte de suite, quelque part, à ce grand couteau, puisque là, dans le démon des femmes, tout est vicié, en fait. Tout le monde est corrompu. Parce que dans le grand couteau, il y a un producteur qui est un salopard, mais Jack Palance ne vit pas entouré de salopards. Et il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui croient en lui. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire dans le film, en fait, c'est la manière dont Aldrich s'acquitte du fait de tourner un huis clos. Alors, le film démarre par un plan zénital qui voit Jack Palance en extérieur s'entraîner avec son pote à la boxe et tout, et puis qui nous laisse augurer d'un tout autre film. Pour petit à petit, on part du grand, de l'extérieur, pour petit à petit aller s'enfermer dans la maison pour ne plus en sortir. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans la mise en scène d'Aldrich, c'est vraiment de la mise en scène pure, puisque du coup, une grande partie des moments clés de l'intrigue vont se dérouler à l'étage. Étage qu'il ne filme pas. L'étage, c'est le hors-champ. Et c'est assez extraordinaire de voir la maîtrise de la mise en scène, parce que, en fait, tout passe par les sons. À un moment, il y a une femme qui vient, il va à l'étage avec elle, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Enfin, une petite idée, mais on n'en a pas la confirmation. Le final se déroule à l'étage. Puisqu'on ne dit pas assez aussi, Aida Lupino, elle est bouleversante dans le film, elle est extraordinaire. C'est pas qu'une réalisatrice intéressante, c'est surtout une grande actrice aussi, Aida Lupino. Et puis Jack Palance livre certainement là, peut-être sa meilleure performance d'acteur. J'ai pas vu tous les films avec Jack Palance, mais je l'ai rarement vu aussi bon que dans Le Grand Couteau quand même. Je rappelle que Le Grand Couteau, donc, c'est disponible chez Rimini. Et que, bah, vous l'aurez compris, c'est un film à avoir absolument dans sa vidéothèque. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine !